Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les bars et restaurants en Île-de-France peuvent donc rouvrir leurs salles à partir d'aujourd'hui, mais les clients seront-ils au rendez-vous et surtout comment appréhenderont-ils leur assiette pendant le confinement? Chacun a dû repenser et réorganiser son quotidien, ses repas en télétravail à la maison, avec ou sans enfants, dans un contexte de déplacement limité, de crainte de pénurie pour certains. Notre rapport à l'alimentation a lui aussi changé. Comment cela s'est-il concrètement traduit? Bonjour Éric Birloise.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes ingénieur agronome, sociologue de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, on a énormément parlé d'alimentation, de nourriture, de cuisine pendant la période de confinement. Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport à la nourriture pendant cette période, Éric Birloise?
Alors effectivement, moi je distingue deux types d'impacts. Vous l'avez dit, il y a d'abord eu les impacts sur nos pratiques alimentaires, donc la manière dont on mange, la façon dont nous mangeons et ce que nous mangeons également, aussi la manière dont on s'approvisionne, dont on prépare la nourriture, vous faisiez référence à la cuisine, et puis, et c'est évidemment tout à fait important, des changements, des impacts sur notre rapport à l'alimentation, c'est-à-dire la manière dont nous pensons l'alimentation. Alors si, juste pour le citer rapidement, sur nos pratiques alimentaires, on en a évidemment beaucoup parlé, on a vu que certains produits avaient été davantage achetés, d'ailleurs surtout dans un premier temps, d'autres avaient été délaissés. Une chose qui m'avait beaucoup frappé, par exemple, ça a été lors de la première semaine de confinement, l'explosion. Alors, des achats de tous les produits alimentaires, mais ça, c'était assez logique, puisqu'on était beaucoup plus à la maison, mais l'explosion des produits bio en particulier, où dès la première semaine de confinement, l'augmentation des achats de bio, c'est 63%, alors que l'augmentation des achats de produits conventionnels, ça n'est que, entre guillemets, 40%. Et tout au long du confinement, on a vu ce différentiel de 20% augmenter.
Aujourd'hui, comment on vous l'expliquez?
Des choses plus normales. Alors, il y a eu beaucoup d'explications. D'abord, des explications tout à fait mécaniques. Hein, vous le savez bien, on a consommé davantage dans des magasins de proximité, chez des producteurs locaux, via le e-commerce alimentaire où le bio est plus représenté traditionnellement. Il y a eu aussi autre raison mécanique, lorsque la farine, par exemple, venait à manquer dans les rayons, eh bien une partie des clients s'est reportée sur le bio, tout simplement parce qu'ils ne trouvaient pas l'équivalent en conventionnel. Mais plus intéressant, il y a eu deux choses. Il y a que pour une partie des consommateurs, on percevait le bio et on l'aperçut encore plus comme plus naturel, comme plus sain, comme moins mondialisé, et comme la santé était devenue l'obsession quotidienne, eh bien cette image très positive attribuée au bio, eh bien s'est trouvée renforcée. Et puis enfin, une dernière raison intéressante, c'est que dans le cas des fruits et des légumes bio, vous savez que dans un supermarché, une grande surface, ils sont en général pré-emballé, à la différence du conventionnel qui lui est vendu en vrac. Là, je parle des fruits et des légumes. Et donc, on a vu pas mal de gens qui étaient rassurés par le fait que le bio était emballé. Et puis, dans les pratiques, il y a eu aussi plus de cuisine. Des aliments faits maison, ça, c'était étonnant. Quand on a demandé aux Français dans un sondage quelle était la recette qu'ils avaient le plus particulièrement apprécié faire à la maison, ce qui vient en tête, c'est incroyable, c'est le pain. On a fait du pain à la maison.
Mais là aussi, c'est quand même assez étrange parce que les boulangeries étaient ouvertes.
Exactement. Donc, exactement, c'est pas parce qu'on manquait de pain, mais je crois, alors là, on a une dimension symbolique et une valeur du pain qu'on l'on redécouvre. Et voyez, ça, c'est intéressant parce que ça me permet de faire le lien avec ce que je disais. Il n'y a pas eu que les pratiques qui ont changé. Il y a aussi notre rapport à la nourriture. Et je crois que pour, pas tout le monde, mais pour un certain nombre des Français, la manière dont ils pensent la nourriture a changé. Et notamment, on redécouvre, c'est un exemple parmi d'autres, je crois le pain le montre bien, peut-être la valeur vitale de l'alimentation. Hein, pendant des siècles et des siècles, les Français, tous les Français récitaient « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Et donc, redécouverte pour certains que la nourriture a une valeur vitale, hein, rappelons-nous, la peur de la pénurie alimentaire, c'est quand même 40% des Français qui l'ont craint dans les premiers jours du confinement. Et puis on redécouvre également, on en a aussi beaucoup parlé, au niveau collectif cette fois, prise de conscience qu'il existait un système alimentaire qui a bien fonctionné. Les Français ont été nourris, même s'il y a eu quelques ruptures de stock. Et puis on a pris conscience des acteurs oubliés de ce système alimentaire, les invisibles, bien sûr sûr, on a parlé des caissières de supermarchés, mais aussi des producteurs agricoles, des chauffeurs livreurs, des magasiniers. Et puis, je terminerai en disant que dans les prises de conscience, alors il y a eu celle de la souveraineté alimentaire dont on a beaucoup parlé, mais aussi, moi, ce qui me frappe beaucoup, en même temps que les produits bio ont explosé pendant les semaines de confinement, eh bien, il y a autre chose qui a explosé, qui est l'afflux des demandes d'aide alimentaire. Et là, évidemment, on n'est pas sorti, j'allais dire, de l'auberge.
Et oui, parce que il y a eu aussi un sentiment, vous allez nous dire si celui-ci était justifié ou pas, que le prix des denrées alimentaires était plus élevé.
Alors non, il y a eu des réalités. Hein. On avait vu que pendant le confinement, pour tout un tas de raisons, le prix, par exemple, des fruits et des légumes avait augmenté. Enfin, il y a beaucoup de produits qui ont vu leur prix augmenter. Mais plus important encore que, évidemment, la hausse du prix, ça a été le fait que dans les populations qui étaient déjà précarisées ou qui avaient la tête, je dirais, juste au-dessus de la ligne de flottaison, eh bien, il y a des gens qui ont brutalement perdu leur petit boulot, leur emploi précaire, leur intérim, leur CDD. Ajouter à cela la fermeture des cantines, des restos U qui permettaient à certaines familles ou à certains étudiants pauvres d'avoir à prix très modique un repas, et parfois on sait que c'était le seul repas. Voilà, combiné à l'augmentation des prix que vous évoquiez, tout ça explique évidemment cette situation d'accentuation des inégalités alimentaires, de la fracture alimentaire au sein de la société française. Il y a des gens qui ont consommé davantage de bio, davantage de local, davantage de produits frais qu'ils ont cuisinés à la maison, mais il y a aussi des gens pour qui la situation a été et sera vraiment dramatique. On peut parler de détresse alimentaire.
Qu'est-ce qui va changer de manière permanente, ou en tout cas si le terme est un peu fort, qu'est-ce qui, à la suite de cette période de confinement qui a vu donc se modifier nos habitudes alimentaires, va demeurer encore actuel selon vous, Eric Birloise?
Oui, alors évidemment, c'est la grande question. Hein. Moi, il y a deux choses auxquelles je ne crois pas du tout, qui serait le changement profond, rapide de notre système alimentaire, hein, le grand soir, mais c'est un tel paquebot, le système alimentaire, que ça se change pas d'un claquement de doigts, c'est pas possible. Mais je ne crois pas non plus à l'absence de changement. Donc effectivement, il y a des choses qui vont durer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas toute la société française qui va changer. Il y a une partie des consommateurs, des mangeurs, qui va se trouver renforcé par la crise du coronavirus dans leur conviction qu'il est nécessaire de manger toujours plus des produits plus locaux, plus bio, des produits frais, moins transformés, etc. Et puis il y a des gens qui ont pris, j'en ai interrogé, et qui me disaient qu'à la faveur de cette crise, il y a des prises de conscience qui se sont opérées pour aller vers une alimentation plus durable, comme on dit, plus responsable, plus vertueuse, entre guillemets, etc. Donc ça va changer. Je pense que... Mais ce sont des tendances qui existaient déjà auparavant. Vous voyez, le local, le bio, c'est pas né avec la crise. Donc ça, ce sont des... Mais il faut bien avoir en tête que c'est dans une fraction de la société française que ça va changer. Parce que n'oublions jamais qu'en termes d'alimentation, il y a deux choses. Il y a le pouvoir d'achat et il y a le vouloir d'achat. Donc il y a des personnes, y compris, bien sûr, on le dit pas assez, parmi les personnes pauvres, qui ont un vouloir d'achat, qui veulent, elles aussi, manger plus sain, plus ceci, plus cela, plus local, mais qui ne le peuvent pas. Et ça, c'est un souci qui est que j'observais comme d'autres depuis quelques années, mais qui va être un renforcement de l'éclatement, de la fragmentation de la population des mangeurs. Donc, pour simplifier, d'un côté, des gens qui vont, après la crise, accentuer ou mettre en place des pratiques d'alimentation plus durables, et puis de l'autre côté, des gens pour qui la quête de l'alimentation sera un véritable combat de tous les jours.
Merci beaucoup, Eric Birloise. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome et sociologue de l'agriculture.